Chapitre 40. Juin 2019. L'appartement que j'ai loué sent la javel et les serviettes humides. Il donne sur l'arrière du bâtiment, sur le dos d'autres immeubles où je vois un enchevêtrement d'escaliers de secours en colimaçon et d'immenses poubelles en métal regroupées tristement dans les cours à leurs pieds. Le propriétaire a laissé un bol de ce qui ressemble à des truffes au chocolat faites maison sur la table de la cuisine, à côté d'une tulipe esselée dans un vase, ce qui est adorable, certes, mais qui ne contrebalance pas vraiment le malaise qui règne dans le studio. Je pense à l'appartement de Fine avec les coussins Frida Kahlo et soupire. Bien sûr que son Airbnb était mieux que le mien, évidemment. J'ai déduit que son logement se situait 2 étages sous celui-ci et 3 portes vers la gauche. Je prends la clé et j'emprunte l'escalier en pierre commun à tout l'immeuble qui résonne. Je compte les portes sur la gauche et vois que celle de Fine, peinte dans un bleu sarcelle magnifique, est ornée d'un heurtoir doré en forme de tête de renard. J'ai l'impression que me parvient de sous la porte le parfum de néroli et de grenade du diffuseur que j'ai repéré sur les photos. Je colle mon oreille au battant, mais n'entends rien. De retour dans mon appartement, j'ouvre ma valise et installe mes vêtements dans l'armoire qui sent le renfermer, tout en rédigeant dans ma tête le commentaire que je laisserai en partant. Des meubles fatigués, l'ensemble mériterait un petit coup de polish. Soudain, je suis submergé par les conséquences désastreuses des décisions prises depuis que j'ai quitté Londres. Je suis seul dans un appartement triste de Chicago à épier un homme que je n'ai pas vu depuis mes 16 ans, un homme qui me méprise, et je suis perdu. Je ne peux pas m'approcher plus de lui, sauf si je m'introduis dans son appart en son absence, et que je m'assieds là entre les coussins Frida Kahlo, en attendant qu'il rentre, et c'est impossible, c'est trop. J'ai peur de ce qui pourrait arriver ensuite, de ce que je pourrais faire, de ce qu'il pourrait faire. Je redoute la force de ce qui nous sépare depuis toutes ces années, et ce que cette force pourrait générer si elle se retrouvait prise au piège derrière la porte close d'une location Airbnb. Je sens le poids du découragement s'abattre sur mes épaules. Pourquoi suis-je là? Que fais-je là? Qu'est-ce que je veux, nom de Dieu? Puis d'un coup, je me redresse, droit comme un i, car je viens d'avoir une idée. J'attrape un cahier et un stylo dans la sacoche de mon ordinateur. J'écris un mot à toute vitesse. « Cher locataire de l'appartement 12, je suis celui de l'appartement 35. Je ne me sens vraiment pas à l'aise dans le logement que j'ai loué, et je vois sur Airbnb que votre séjour se termine dans 10 jours. J'aimerais réserver l'appart que vous occupez après vous. » Auriez-vous l'amabilité de me laisser le visiter avant que je confirme? Aucun problème si c'est non, je comprends parfaitement. Mais si cela ne vous dérange pas, alors venez frapper à ma porte ou écrivez-moi à ce numéro. Merci. Je m'arrête. J'allais signer Joshua. Mais si Chris a retrouvé Fine, il lui a peut-être parlé de cet anglais étrange qui pose beaucoup de questions. Alors je réfléchis un instant, puis je signe Jeff. Je plie le mot en 4. Retourne devant l'appartement 12 et le glisse sous le museau du renard. Puis je sors, me rends dans une boutique que j'ai repérée plus tôt dans le quartier et dépense $70 en diffuseurs et bougies parfumées. Le soir venu, Finn n'a toujours pas répondu. J'ai faim, la nuit commence à tomber et je ressens un appétit irrépressible de quelque chose dont j'ignore la nature. De sexe peut-être, d'alcool, ou de sport, de violence, de musique forte, de fast-food. Il y a une bête en moi qui rugit et s'agite, et j'ai envie de taper dans un mur, mais j'ai déjà tenté l'expérience une fois, et ça fait un mal de chien. En plus, la plaie avait mis 3 semaines à cicatriser, ce qui n'en valait vraiment pas la peine. Je fais les 100 pas dans l'appartement qui sent désormais les lys, les mandarines, et, paraît-il, l'écume marine. Mes poings se serrent et se desserrent. Mon souffle devient plus profond. Je regarde des vidéos porno sur mon téléphone, mais ça m'énerve, rien de plus. J'ai besoin d'air frais. Je descends l'escalier qui me renvoie l'écho de mes pas et m'aventure dans le couloir du 1er étage. Je passe devant chez Fine et remarque que mon mot est toujours là. Je dévale les dernières marches, ouvre la porte d'entrée d'un grand geste et me précipite dans la rue. Je me sens immédiatement en accord avec l'énergie douce de ce mardi soir, de ces rues pleines de travailleurs enfin libérés de leurs tâches monotones, de touristes et de locaux, de tous âges, et je marche dans leurs pas, dans leur sillage, comme un wagon accroché de façon invisible à une locomotive. Je me dis que j'ai probablement l'air d'un fou, ce que je suis certainement. Les lumières brillent et m'éblouissent, j'ai le vertige, l'impression d'être saoul alors que je n'ai rien bu. À un moment, je me détache de la foule et m'arrête devant les portes d'une brasserie avec des palmiers en peau d'1,80 m, un lourd rideau en velours, un maître d'hôtel en chemise et pantalon noir bien taillé, au sourire à faire tomber les oiseaux de leurs branches et les hommes amoureux. On m'installe sur une banquette et on me donne un menu. Je commande le bœuf à la Chateaubriand à $90, des beignets d'oignons et un vin tibétain, le Shangri-La. Ah, tenez-vous bien, $450 la bouteille. J'avale le vin comme si c'était du jus de raisin et je touche à peine à la viande parce que, finalement, je n'ai pas très faim. Mon regard traverse le restaurant pour observer ce qui se passe dans la rue. J'évalue les hommes qui marchent, les jeunes et les vieux, et je les veux tous, tous. Mon cœur se gorge de rage parce que eux ne veulent pas de moi. Je commande une bouteille de champagne Ruinard à $195. Je mange les beignets d'oignons à la main et me perds sur un grinder avec les doigts gras. C'est une véritable agonie d'être si proche de Finn. Ça me ronge de l'intérieur comme si j'étais un fruit pourri, et je ne peux rien faire de ces sentiments. Tout ce que je veux maintenant impliquerait de me retrouver chez les flics. Alors je demande l'addition et je paie en ajoutant un pourboire de 50%. Je me lève et découvre que je n'ai plus l'équilibre, et je dois m'accrocher à la table. Le serveur qui a reçu le pourboire de $300 me guide gentiment vers la sortie. Il n'est même pas mignon, mais je ne peux pas m'empêcher de lui dire « Tu es trop chou, tu t'appelles comment ?» Et la façon dont il me sourit, comme s'il avait un peu de vomi dans la bouche, est sans doute l'une des pires humiliations de ma vie. Et croyez-moi, quand je vous dis que j'ai déjà vécu des expériences sacrément salées, je fonce sur le trottoir, je veux embrasser quelqu'un, frapper quelqu'un, crier, tuer, glisser ma main dans des caleçons et serrer jusqu'à ce qu'il gémisse. Je me rends compte que c'est moi, ça, que ça a toujours été moi. Mais que je m'étais assis dessus, je l'avais réprimé, enfermé dans une cage, endormi comme un jeune tigre, et j'ai l'impression à ce moment précis que la barrière invisible qui m'a jusque-là retenu de commettre un meurtre a toujours été bien plus fragile que je ne l'imaginais. Je veux poignarder une personne en plein cœur et cogner quelqu'un au visage. Je veux faire un massacre. Je veux arroser cette foule de visages lumineux avec un semi-automatique et les écouter hurler, les voir fuir, tomber au sol, agripper leurs membres blessés pendant que la vie les quitte. J'en ai très envie. J'en ai vraiment, vraiment très envie. Mais je voudrais bien prendre de la drogue aussi. Je veux de la coke et de la vodka. Je retrouve le chemin du Magdala et me donne l'air le plus sobre possible avant d'aller demander au barman s'il a un contact. Et heureusement, il comprend mon insinuation immédiatement et me désigne une femme dans un angle qui semble avoir la cinquantaine. Elle boit une bière seule. Je me dirige vers sa table et elle me guide vers un espace en retrait dans le coin gauche du bar. « Ça va ? T'as l'air pas mal attaqué. »« Ouais, je suis pas mal attaqué. » Je lui dis que j'ai bu une bouteille de vin et une autre de champagne et que j'ai l'impression que je vais devenir fou. Et il me faut quelque chose, un truc. Pas de la coke, en tout cas, ça c'est sûr. Elle me propose de la kétamine et du valium. Je lui donne $50, elle retourne à sa bière, je prends la poudre, les cachets et je déguerpis. Aussitôt, je regrette de ne pas avoir insisté pour qu'elle me vende de la coke. Mais je ne veux pas remettre les pieds au Magdala. Donc je vais dans un autre bar, commande 3 shots de tequila, que je descends d'un coup, et j'écris à Chris Doll. Je suis bourré et je veux baiser. Prends ta grosse bécane et viens me retrouver. En réalité, j'écris, je suis bourré, je veux baiser, prends ta grosse bévane et viens me retrouver avec un emoji moto. J'essaie de rentrer dans un club, mais le videur m'en empêche et je le cherche physiquement. Je plaque mes mains sur son torse, sentant la futilité de ce geste quand il me repousse avec ses gras gonflés aux stéroïdes et me décale comme si je ne pesais pas plus lourd qu'une feuille mouillée. Puis je suis en roue libre pendant quelque temps. Je crie sur des passants qui me dévisagent avec dégoût ou qui se moquent. Je refile la kétamine et le valium à 2 ados. « Tenez les jeunes, de la drogue pour vous !» Ils la prennent bouche bée, et puis je retourne vers mon immeuble. Je lève les yeux et je vois que la lumière est allumée dans l'appartement de Finn. Mon ventre s'embrase. Mon cœur, ma tête brûle de flammes de fureur qui lèchent tout mon corps et menacent de me consumer. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. J'ouvre la porte et je cours jusqu'au premier étage. Je sais que je devrais arrêter et que je devrais me préparer et que je devrais faire ça bien. Nom de Dieu ! Faire ça bien, mais je ne peux pas me contrôler et tambourine à la porte bleue avec le heurtoir en forme de tête de renard et j'entends une voix. Oui ? Bonsoir, réponds-je avec un accent américain. C'est Jeff, le voisin. Je peux vous déranger une minute ? Il y a un silence. Je me balance d'un pied sur l'autre, puis j'entends la chaîne de sécurité coulisser. La porte s'ouvre, j'avance mon pied dans l'entrebâillement, je lève les yeux, et Finn est là. Il me regarde, et je surprends ce quart de seconde où il comprend que Jeff, le voisin, c'est moi, le Henry de ses cauchemars. Mais il est trop tard parce que je suis dans son appartement, et il ne peut absolument plus rien faire.